Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se discute, le magazine mensuel des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Ouf, les vacances ont fini par arriver et certains d'entre vous sont allés sur la terre promise à Canaan. D'autres ont plus modestement profité de ces jours pour se reposer. Mais que vous soyez restés chez vous, partis chez vos grands-parents, sous-tantes ou aux quatre coins du monde, soyez tous les bienvenus à l'écoute de notre émission. Ce soir, nous questionnons la mixité chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Filles et garçons sont-ils différents? Au contraire, sont-ils les mêmes? Et quelle que soit la réponse, sont-ils amenés à vivre le scoutisme de la même manière? Dans la vie de tous les jours, on constate qu'il y a plus de caissières et d'infirmières que de caissiers et d'infirmiers. Si l'on s'attache à ces faits, il semblerait que les filles et les garçons sont simplement différents. Après tout, les goûts et les couleurs, c'est bien connu, ne se discutent pas. À l'école, il paraîtrait même que les filles sont les plus douées au début, mais que seulement 27% des diplômes d'ingénieurs sont délivrés à des femmes. Derrière d'éventuelles différences se cacheraient donc de réelles inégalités sociales. Même dans le scoutisme, on a probablement tous en tête des situations où filles et garçons n'agissent pas de la même manière. Elles font plus souvent la vaisselle, tandis qu'ils sont régulièrement les premiers à batter à la tech. Selon qu'on soit Charlotte ou Charles, on nous demande d'être plus sensible ou plus fort. Mais si Charlotte lâche un énorme rot à la fin de son repas, ou que Charles laisse échapper des larmes parce qu'il a marché dans les ronces, on se prête bien vite à croire que la terre ne tourne plus très rond. Notre projet éducatif souhaite la mixité à tous les âges. Mais il est peu bavard sur sa mise en œuvre et son intérêt. C'est donc pour éclairer notre chandelle que nous sommes partis à votre rencontre et que nous recevons ce soir deux invités spéciales. Laure, bonsoir Laure.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs en quelques mots pourquoi tu es ici?
Alors moi je suis présidente de la commission mixité au sein des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France.
Et ancienne présentatrice de Ça se discute.
Ah oui, je reviens un petit peu à la maison ce soir.
Voilà, bah, bienvenue chez toi.
Merci.
Et on reçoit aussi Hélène. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux te présenter?
Alors j'ai été responsable des clés pendant 4 ans à Lille Métropole et j'entame ma deuxième année en tant que responsable aînée, toujours à Lille Métropole. Et je suis très contente d'être invitée ici dans cette émission puisque c'est un thème qu'on a beaucoup abordé autant avec les éclés qu'avec les aînés et qui a permis de réfléchir aux stéréotypes qui sont véhiculés par la société, d'y réfléchir au sein de notre mouvement. Et c'est quelque chose qui me semble important dans notre mouvement.
Avec elle, Céline et Alexis, nous défricherons la forêt des stéréotypes de genre, justement, et nous essaierons de répondre à cette question qui en résume peut-être beaucoup. Filles et garçons sont-ils égaux dans le scoutisme? Vous nous retrouvez bien sûr sur 100.7 FM, sur Internet, sur Facebook et Twitter grâce à la Toile Scout au hashtag Ça se discute. Commençons tout de suite par une question à Laure et Hélène. Est-ce que la mixité, c'est important d'y réfléchir lorsqu'on est une association comme la nôtre?
Alors, moi, ça me paraît important d'y réfléchir dans la mesure où on est toujours dans une démarche de réfléchir aux inégalités et ce que je disais, aux stéréotypes et comment déconstruire un petit peu ça et dans nos pratiques et dans les moments de réflexion qu'on peut avoir avec les enfants. Mais nous sommes aussi des responsables et réfléchir aussi à nos propres pratiques en tant que responsables pour essayer de mettre ensemble, enfin, mettre en œuvre non seulement un climat bienveillant, mais une répartition des tâches pour aussi travailler sur la pédagogie de l'exemple. Donc c'est aussi quelque chose qui peut se mettre en œuvre à différentes échelles.
Laure, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, en fait, chez les éclaireurs unionistes, on est aussi représentatif de la société dans laquelle on est. Et enfin, la question de l'égalité filles et garçons, femmes et hommes, elle est présente tout le temps au sein du mouvement. Et quand on relit le projet éducatif de l'association, il y a écrit « Épanoui et libre de ses choix ». Et on éduque des filles et des garçons. Et pour justement les aider à devenir épanouis et libres de leurs choix, il faut réfléchir à qu'est-ce qui empêche cela, qu'est-ce qui empêche d'être libre de ses choix. Et cette question des, on va dire, des choses qui peuvent entraver cette liberté, dedans on met cette égalité filles et garçons. Donc,
voilà. Hélène parlait d'exemplarité. Est-ce que, toi qui es présidente de la Comics, tu saurais dire si on est exemplaire en matière...
Alors, au vu des statistiques qu'on a, on va dire, on a épluché pour écrire le guide d'outils dont on reparlera un peu plus tard, mais on s'est rendu compte qu'en fait... on n'avait pas à rougir de ce qu'on était, parce que le mouvement va plutôt dans le bon sens. On peut même dire que le mouvement est un mouvement d'émancipation pour les filles et les femmes, mais au même titre que c'est un mouvement d'émancipation pour les garçons et les hommes. Mmh. Voilà, après, à part qu'on permet... aux filles et aux garçons de prendre des responsabilités dans un souci d'égalité. Donc c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on est un petit peu meilleur que le reste de la société, même si après, quand on met un peu plus en détail dans les statistiques, on se rend compte quand même il y a des choses qui sont pas... Enfin, on peut encore travailler sur certains points.
Alors justement, quand on lit les comptes rendus du conseil d'administration, des débats, on s'aperçoit par exemple que la parole n'est pas du tout répartie de la même manière entre administrateurs et administratrices, au net avantage des administrateurs, ou que les femmes, les administratrices, ne prennent que très très rarement des dossiers techniques en main, comme les finances, l'immobilier, ce genre de choses. Est-ce que ça vous paraît étonnant ? Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est normal ? Hélène.
Ça dépend comment on définit la normalité, ce qui est normal, ce qui doit l'être, ce qu'il est effectivement. Mais c'est quelque chose qu'on reproduit, même si on essaye d'y faire attention, qu'on reproduit de manière irréfléchie ou inconsciente. Et c'est justement là-dessus que je pense qu'on peut faire attention avec les enfants et aussi à différentes échelles. Parce que c'est des choses qu'on vit au quotidien, ces disparités-là, qu'on ne met pas forcément en cause, qu'on ne remet pas en cause parce qu'on n'y réfléchit pas forcément. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est d'établir un cadre pour faire en sorte que les débats soient bienveillants, ça me semble même le plus important. Et en installant déjà un cadre de débat bienveillant, où un homme, une femme va pouvoir intervenir de la même manière, c'est déjà un premier pas vers l'égalité. Alors, c'est pas la finalité, mais ça peut passer par ça.
D'accord. On a beaucoup parlé des adultes. Alexis, toi, t'es parti à la rencontre des aînés. Donc, les aînés, c'est les scouts, enfin, éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, entre 17 et 19 ans, 16 et 19 ans, pardon. Tu les as rencontrés sur Canaan, le fameux camp national aîné. Est-ce que tu peux, avant qu'on écoute ton reportage, nous présenter ta démarche ?
La démarche, comme ça va être expliqué dans le petit reportage, tout simplement, était d'aller voir les aînés et de leur poser la question, ça veut dire quoi la mixité ? Comment est-ce qu'on vit ça ? Avec un biais, et je suis allé voir exprès des groupes de garçons séparés, de filles séparées. Je suis allé sélectionner les gens spécifiquement là-dessus pour que ce soit des paroles vraiment... de garçons ou de filles. Voilà, je vous propose d'écouter.
Alors, sujet du jour, la mixité. Bon, ça tombe bien. Je pars à Canaan. Canaan, c'est le camp national aîné. C'est un grand rassemblement durant les vacances de la Toussaint qui va réunir 260 personnes sur le thème de la rencontre. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, je vais aller interroger les aînés, voir ce qu'ils pensent de la mixité, de la relation fille-garçon, s'il y a du machisme aux éclaireurs, etc.
Donc, Luc, Boulogne, 16 ans. Je trouve que si on interdisait la mixité aux éclaireurs, ça créerait une division entre les mecs et les filles qu'on veut pas avoir dans la vraie vie. Voilà.
Enfin, c'est clair dans ma tête, juste en fait, on se pose pas spécialement de questions dans le sens où ça coule de source qu'on soit mixte à notre époque, mais qu'il y en a que ça dérange encore.
Nils, Boulogne, 16 ans. Je trouve que la mixité, ça permet de diversifier les rencontres.
Marc, 16 ans, Faubourg Saint-Antoine. Ce que je pense, c'est déjà au niveau du groupe, pas forcément que des aînés, la mixité, déjà, ça apporte des réactions différentes. Par exemple, en explo, une fille et un mec va pas forcément réagir de la même manière. Je trouve que c'est un partage et puis c'est quand même un des fondements du scoutisme, la mixité.
Est-ce que les hommes et les femmes sont différents ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que physiquement, on est peut-être différents, on n'a pas la même anatomie, mais chacun est différent, chacun a son avis. Et donc, ce n'est pas les hommes et les femmes qui sont différents, c'est juste les personnes en général.
D'accord.
Enfin, chacun a sa personnalité, et que ce soit une fille ou un garçon, c'est... ça ne va pas définir qu'est-ce qu'il pense ou... le sexe de la personne ne définit pas ce qu'il pense.
Peut-être lorsqu'on est tout petit ou lorsqu'on est très grand, on va dire, ça, à ce moment-là, il n'y a pas trop de différence. Mais c'est vraiment, c'est sur la période de l'adolescence, il y a plusieurs personnes qui reconnaissent notamment que, souvent, qui disent que les filles évoluent plus vite que les garçons. Et puis même à cet âge-là, au niveau des mentalités, c'est pas pareil. Et parfois, il y a des accrochages, mais globalement, ça se passe bien. Mais c'est sur ce côté-là que je voyais une différence, moi.
Il n'y a aucune division.
Les mecs font la table.
Il y a des divisions, mais c'est pas forcément mec-fille. C'est juste, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont préférer faire la bouffe. Il y en a qui vont préférer monter le mât. Et peut-être qu'il y aura plus de filles que de mecs dans les cas. Mais c'est pas une division mec-fille. C'est juste, ça dépend des personnes.
On préférera quelqu'un qui sache faire une table, aller faire la table. Voilà, et quelqu'un qui sache faire un vaisselier, faire un vaisselier. Maintenant, moi, je sais très bien faire un vaisselier. Je suis incapable de faire une table. C'est souvent malheureusement pas d'ailleurs les filles qui sont extrêmement motivées pour faire secrétaire, pour rédiger, pour même si on le fait aussi, mais elles veulent pas nous passer l'ordi quand il y a un truc à rédiger, ou elles veulent pas.
Si c'est leur faiblesse, c'est qui va.
Alors mesdames, il y aurait pas de division des tâches sexuées et pas de machisme aux éclairs unionistes, vous êtes d'accord?
Qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour, c'est toi qui pleureras.
De ce que j'ai pu observer, il y a encore trop de discrimination sportive vis-à-vis des filles.
Ah ouais.
Par exemple, quand on joue à la Sioule, les mecs ils vont plus faire des passes aux mecs comme meufs ou des trucs comme ça parce qu'on est des filles et qu'on est moins. On est moins forte, quoi.
Genre quand les mecs te laissent toute la vaisselle à faire alors que c'était leur service de la veille.
Souvent ils nous embêtent, ils nous taquinent, mais après ils le font quand même.
Ouais, mais il y a des vannes un peu mal placées parfois. Hein.
Ouais.
Enfin, je trouve.
C'est-à-dire ?
Après nous, quand on leur dit.
On va pas rentrer dans les
détails. Quand on leur dit faites les installs, c'est la même chose. Hein.
Vous pensez que vous aussi, des fois, les filles, vous faites du machisme en reléguant les garçons à des tâches spécifiques ?
Oui, un peu, oui.
C'est-à-dire ?
Souvent, comme pour la vaisselle, nous, c'est vraiment aller faire les installs, planter. C'est réciproque. Mais après, c'est juste, on se taquine et au final, on fait nos tâches.
Et les responsables, ils en pensent quoi dans tout ça ?
C'est que je pense qu'elle fait partie des valeurs de coéducation portées par le mouvement unioniste. Elles permettent d'approfondir la connaissance de l'un, enfin de l'un envers les autres, et de créer une relation garçon-fille très enrichissante, tant pour les uns que pour les autres, un peu à l'image des grands envers, envers les petits et vice-versa. En plus de cela, au-delà de cet aspect éducatif, c'est toujours aussi l'occasion de créer des rencontres dont on se souvient, d'avoir parfois son premier petit copain ou sa première petite copine dans le cadre unioniste, et tout ça dans le respect de chacun.
Elsa, 30 ans, présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. La mixité aux éclaireurs unionistes, c'est pour moi l'opportunité pour des garçons et des filles d'apprendre à vivre ensemble et de permettre à chacun de développer son propre leadership, indifférent de son genre ou de son sexe, quelle que soit la manière dont on l'appelle, mais en tout cas de permettre à chacun de s'épanouir et de prendre des responsabilités, de prendre son autonomie.
Elle est pas lui, elle n'aura pas les mêmes chances que lui, pas les mêmes droits, lui, si elle est née, elle est pas lui, elle n'aura pas les mêmes chances que lui, pas les mêmes droits dans la vie.
Alors, à l'écoute de ce reportage, on a entendu peut-être une différence entre les jeunes et les responsables, où à écouter les jeunes, il n'y avait pas de problème. Des jeunes de 16-18 ans, c'est quand même important de le préciser, mais il n'y avait pas de problème sur la question de la mixité, des inégalités aucune réflexion sur les conditions sociales de production de ces inégalités sexuées. Et inversement, quand je suis allé voir les responsables, j'ai eu des échos, une vraie réflexion, etc. Et c'est comme si il y avait peut-être un décalage entre une réflexion de la part des responsables, des scouts de bureau, on pourrait dire, et des jeunes qui, au quotidien, ne vivraient pas du tout cette question-là. Et j'ai interrogé énormément de jeunes, et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas passées, mais... Et c'était le début du reportage, beaucoup de jeunes, en fait, ne se posaient même pas la question de la mixité. C'était une évidence d'avoir grandi, ils ont grandi dans la mixité, ils ont appris toujours à vivre ensemble, et donc, pour eux, la question ne se posait pas. Alors, question très simple, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un décalage, justement, entre les aspirations et les vrais problèmes éducatifs que les jeunes eux-mêmes peuvent se poser, et nous, cadres du mouvement, qu'essayons de créer peut-être des problèmes là où il n'y en a pas, du moins du point de vue de l'aspiration des jeunes?
Et je complète, Laure, toi tu es présidente de la commission mixité, est-ce que tu peux retracer l'histoire de cette commission pour qu'on voit mieux comment est-ce qu'elle s'est construite, qui a voulu que ça existe, etc. Et puis répondre à la question d'Alexis.
Alors je vais faire l'inverse, je vais commencer par une réponse à Alexis, parce que c'est pas la réponse, mais notre travail, oui, c'est une volonté politique. Alors après, j'ai envie de dire, si les enfants ils voient pas le problème, ou en tout cas ils ont pas de difficulté, j'ai envie de dire tant mieux. Enfin, ça veut dire que les éclaireurs unionistes font bien leur job. On voit bien la différence d'appréhension des jeunes quand ils sont dans un cadre scolaire, où effectivement ils sont mixtes, mais ils jouent pas forcément ensemble, ils construisent pas des projets ensemble, et du coup à un certain âge, on va dire une période on va dire plus collège, il y a une certaine ignorance, ils viennent se chercher pour se draguer, mais ils construisent pas forcément des choses ensemble. Je crois que la proposition qu'on fait, nous, aux éclaireurs unionistes, c'est justement d'aller au-delà. On est juste à côté les uns les autres, et on construit des choses ensemble, on vit le quotidien ensemble, on construit des projets, et on apprend à vivre ensemble dans les bons et les mauvais moments. Voilà, alors sur l'histoire, peut-être que Hélène, elle veut compléter, on pourra revenir après sur l'histoire de la commission. Hélène.
Bah oui, enfin effectivement, nos jeunes, ils ont l'habitude d'évoluer dans un monde de mixité, que ce soit à l'école, que ce soit même s'ils font de la musique ou tout ça. Mais ils ont aussi l'habitude de vivre dans un monde d'une mixité qui est quand même relative, que ce soit dans la manière dans la pratique d'un instrument de musique, que ce soit dans le sport. Il y a des instruments de musique où on retrouve que des garçons. À titre d'exemple, il y avait un jeu où un responsable devait prendre le rôle d'un professeur de percussion. Et ça a pu engager le débat avec des aînés en disant, bah oui, effectivement, il y a peu de filles qui font des percussions. Bon, c'est des exemples comme ça. Dans le sport, c'est pareil. Là, la Sioule a été évoquée. Donc la Sioule, c'est une sorte de foot, rugby. De rugby, avec assez peu de règles. Et effectivement... ça pose la question de la mixité et comment sont réparties les tâches d'une manière très implicite dans quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire et non contraint, puisque généralement c'est des jeux qui auto-régulent eux-mêmes. On n'a pas forcément besoin d'être là pour que le jeu se passe bien. Et avec souvent des filles qui regardent, des garçons qui jouent, les filles qui jouent... moi, je sais que quand j'étais jeune, j'étais souvent dans les Sioules. Et là, ça a un petit peu évolué quand même, parce que là, sur le camp en Canan, il y en a un petit peu plus. Mais soit on ne nous fait pas de passe, soit on nous en fait, mais alors du coup, on laisse les deux filles jouer toutes seules. Et, voilà. Donc, il y a une différence qui est claire, qui est nette et qui est visible. Sauf qu'elle n'est pas vécue forcément comme une oppression, parce qu'elle est déjà complètement assimilée et par les filles et par les garçons. Je ne sais pas si je reviens tout de suite sur le reportage.
On y reviendra un petit peu après.
Et pour compléter ce que tu dis, Hélène, c'est que en fait, la commission mixité alors vient de produire un outil qui s'appelle le GOMIX, guide d'outils sur la mixité, pour essayer de susciter un questionnement. Alors déjà, il faut commencer avec nos responsables. Et une fois que les responsables auront pris conscience... que dans leurs attitudes, parfois quand ils créent un folklore, quand ils montent un grand jeu, ils n'ont pas forcément en tête qui peuvent véhiculer des stéréotypes sur cette question du genre. Et je prends un exemple sur un folklore schtroumpf. Comment une petite louvette peut s'identifier à la schtroumpfette? Il faut faire attention quand on réutilise des folklores déjà existants à ce que chaque enfant puisse trouver un modèle ou s'identifier en disant moi j'ai envie d'être comme ça parce que ce personnage il me plaît. Et du coup, c'est presque plus simple d'en créer un. Donc c'est un guide qui s'adresse en priorité au cadre, mais avec des fiches pédagogiques qui, elles, sont pour les responsables. Et puis, il y a tout un volet sur, on revient un peu sur l'histoire du mouvement, on présente les statistiques, et puis on revient sur tout ce concept et toute cette histoire, toutes ces explications de c'est biologique ou c'est une construction. On a un peu défini tous ces concepts. On revient aussi un peu sur ce que c'est que le genre, le gender. Un petit peu pour balayer ce qu'il y a dans ce guide. Parce qu'effectivement, ce que tu disais, Hélène, c'est les gens n'ont pas forcément conscience. On s'est posé la question, en fait, en commençant à travailler avec la commission, en épluchant un peu tous les documents du mouvement et en se disant finalement on en parle assez peu. Est-ce que c'est parce que la définition du scoutisme le permet un terrain assez favorable, assez égalitaire entre hommes et femmes, ou est-ce que c'est parce qu'on l'a un peu occulté, mis de côté ces dernières années, et puis tout au long de la construction de ces documents? Alors oui et non, mais en tout cas voilà, ce guide cherche à aller encore plus loin et à questionner les gens à tous les niveaux de l'association.
Alors on va s'offrir une petite respiration dans le débat avec l'interview décalée de Céline.
Et je vais commencer par une blague, j'espère qu'elle vous plaira. Laure, quelle est la différence entre une femme et un terroriste ?
Alors je dirais, la femme elle peut faire deux choses en même temps, et le terroriste il peut pas agir et réfléchir.
C'est pas mal, mais en fait c'est qu'on peut négocier avec un terroriste, on pourrait pas négocier avec une femme. Hélène, dans la chanson, Diane Tell elle dit que si elle était un homme, elle serait capitaine. Toi tu serais quoi si t'étais un homme?
Ben je pense une danseuse.
Laure, la comics, elle est composée principalement de femmes. La mixité, ça intéresse pas les hommes?
Si, je pense. Alors, pourquoi est-ce qu'on a aussi peu d'hommes dans la commission? Parce qu'ils s'occupent des enfants.
Ouais, on espère. Hélène, à l'époque, on brûlait les soutiens-gorge. Est-ce que tu crois qu'il va falloir qu'on brûle les foulards pour la prise de conscience?
Alors brûler son soutien-gorge c'était un acte de rébellion contre les carcans physiques. Brûler son foulard au contraire c'est peut-être justement ce qui nous unit, donc ça serait brûler une des choses qui nous unit indépendamment justement des stéréotypes, et c'est peut-être dommage de brûler ce symbole là.
Ouais, je crois que ce serait dommage, ouais. Laure, est-ce que tu penses que le scoutisme ça va changer le monde?
Ah bah évidemment.
Et toi Hélène, tu penses que le scoutisme ça va changer le monde?
Ben j'espère, mais ça dépend ce qu'on y fait et comment on le défend.
Merci beaucoup.
Merci Céline. Avant de reprendre le débat, et Hélène, tu voulais rebondir sur l'enregistrement d'Alexis, on va écouter Maxine qui nous a fait une petite chronique pour cette émission.
Je trouve que maintenant, la relation fille-garçon est beaucoup plus facile qu'autrefois. Avant, les filles n'étaient bonnes qu'à faire le ménage, la cuisine et s'occuper des nombreux enfants, alors que les garçons partaient travailler ou faire la guerre. Un peu comme s'il y avait d'un côté le monde des filles, et de l'autre le monde des garçons, et ils ne se parlaient pas. Maintenant, les filles et les garçons sont à égalité, même si les nounous et femmes de ménage sont plutôt des femmes, et les éleveurs plutôt des hommes. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression d'être à égalité avec les garçons de mon âge, de m'intéresser aux mêmes choses qu'eux, même si, avec mes amis filles, je n'ai pas les mêmes discussions qu'avec mes amis garçons. Un jour, j'ai été choquée par ma prof d'histoire géo, qui a demandé un homme fort. Elle aurait pu demander quelqu'un de fort, mais non. Pour elle, une personne forte est forcément un garçon. Après, toutes les filles au de la classe ont crié sexisme. Plus tard, quand je choisirai mon métier, je ne m'interdirai pas de faire un métier traditionnellement plus masculin. D'ailleurs, une bonne amie de mes parents est commandante de bord chez Air France, et je trouve ça génial.
Donc c'était Maxine que j'ai oublié de présenter, Maxine qui était invitée la fois dernière, et qui sera chroniqueuse à plein temps chez nous et qui réalisera voilà, des petits billets sur les thèmes qu'on abordera pour les prochaines émissions. Alors, Hélène, est-ce que ce que dit Maxine ou ce qu'ont dit les aînés d'Alexis te donne envie de rebondir ?
Oui, je voulais rebondir sur une chose où, dans le premier reportage d'Alexis, on entendait une fille dire « Oui, mais nous aussi, je ne sais plus ce qu'elle disait exactement, mais on allègue certaines tâches à des garçons plutôt que de les prendre pour nous. » Et on entend un petit peu ça dans ce reportage où, moi, plus tard, je suis une fille, mais... ça m'embêterait pas d'avoir un métier plus masculin ou vu, vécu comme plus masculin. Il y a aussi cette différence avec peut-être des filles qui ont plus facilement accès aussi à des métiers plus masculins et très peu de remise en question aussi au niveau des garçons et peut-être beaucoup plus de moquerie même au final, alors qu'une fille peut, mine de rien, en tout cas au scout, paraître comme plus courageuse ou au moins elle, on arrive à lui parler, c'est pas comme toutes les autres filles. Alors que l'inverse est plus compliqué. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à travailler là-dessus. Alors, je dis pas... Enfin, les disparités n'ont rien à voir entre filles et garçons. Mais je vais reprendre cette idée de stéréotype où ça va aussi dans les deux sens. Et c'est pas seulement éduquer nos filles, mais c'est aussi éduquer nos garçons à l'égalité et la destruction de ces stéréotypes pour construire un monde commun meilleur, en tout cas.
Alors, tu voulais...
Pour compléter, je crois que c'est la définition même du scoutisme qui permet ça. Si on se replonge dans l'histoire, à l'époque, Baden-Powell, au début du siècle, quand il a fait sa proposition, il proposait à des garçons de faire le ménage, la vaisselle, à des tâches qui étaient à l'époque beaucoup plus réservées aux filles. Et on oublie un peu que le scoutisme a démarré aussi là-dessus, quoi.
Pourtant, il a démarré sans les filles, le scoutisme. Elles sont arrivées après dans le...
Oui, mais justement, dans la proposition au démarrage, c'était quand même de proposer à des garçons de faire des activités dites de filles. Enfin...
Alexis ?
Mais il y a aussi, durant tout un moment, une tentation viriliste, on va dire, au sein des éclaireurs, le fait de, dans le scoutisme en général, former des hommes, défendre la patrie, un certain nombre de valeurs comme ça. On ne peut pas dire qu'historiquement, le scoutisme a été basé sur l'émancipation de la femme, ce genre de choses. Enfin, il y a quand même une dualité. Voilà, est-ce qu'il reste des choses de ça aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut justement penser un scoutisme émancipateur quand en même temps, on a quand même pas mal relégué le scoutisme à des catégories très virilistes ? Si vous avez une réponse à cette question complexe, je l'avoue.
On peut peut-être déjà souligner que le mouvement des éclaireuses et éclaireurs unionistes dit en fait très peu de choses sur la mixité. Dans son projet éducatif, il y a une petite phrase qui souhaite que la mixité soit vécue à tous les âges. Le plan d'action national qui est en cours met l'enjeu des relations hommes-femmes sous un plus grand ensemble de l'éducation à la paix. Et du coup, on est quand même assez économe en termes d'intention. Et peut-être que ce que Alexis veut dire, c'est que il y a probablement des impensés quand on dit qu'on veut des relations hommes-femmes égalitaires et pacifiées, mais qu'en même temps, comme il le disait, le scoutisme a d'abord accueilli des enfants. Est-ce qu'il s'est adapté aux filles lorsqu'elles sont venues dans le scoutisme, ou est-ce que elles ont plutôt rejoint quelque chose de masculin? Alexis, non? Tu voulais peut-être préciser ta question?
Non, mais sur l'histoire, c'est un peu compliqué de réfléchir de toute manière avec le scoutisme tel qu'il était il y a un siècle. On peut peut-être déjà partir des choses telles qu'elles sont données aujourd'hui. Et je pense que réaffirmer un homme avec des gros muscles qui va pouvoir porter des grosses bûches pour construire une belle table, c'est réaffirmer non seulement un stéréotype, mais une différence basée sur le corps plutôt que basée sur d'autres choses. Les différences hommes-femmes ne peuvent pas s'arrêter qu'au corps et ne peuvent pas surtout ne pas être ramenées à ça. Alors après, est-ce qu'on a bien intégré les filles? Est-ce qu'on continue de bien les intégrer? C'est une question qui est assez propre à chaque groupe, à mon avis. C'est dur d'établir des généralités là-dessus. Et en tout cas, je pense que ce n'est pas une question qu'il faut évincer du débat, que ce soit sur la mixité, la non-mixité, dans quel cadre c'est pertinent, dans quel moment c'est intéressant d'appliquer la mixité ou la non-mixité. C'est une réflexion que chaque groupe devrait ou doit avoir pour ne pas perpétuer qu'un truc historique ou au contraire vouloir dire, enfin, rester campé sur ses positions sans les re-questionner.
Alexis, j'ai sous les yeux un ouvrage très intéressant des Scouts et Guides de France qui date de 1988 ou 89, Scoutisme féminin et promotion féminine. C'est un colloque qui a été organisé sur la question justement de la promotion des femmes dans le cadre du scoutisme. Et la question justement, c'est est-ce que le scoutisme a permis la promotion des femmes, l'émancipation des femmes? Et est-ce qu'on, pour, si oui, est-ce qu'il a permis la même chose pour les hommes, d'après vous? Est-ce que, alors je reformule peut-être, est-ce que le scoutisme n'a pas permis la promotion et l'émancipation des femmes, mais a permis l'émancipation et la promotion des individus et pas spécifiquement pour les garçons? Est-ce que le projet scout est émancipateur aussi pour les garçons en tant qu'individus genrés?
Bah oui. Enfin, dans la proposition qu'on fait, on ne distingue pas. C'est-à-dire qu'on propose aux enfants en branche cadette de devenir saisonniers ou saisonnières, de prendre des responsabilités, s'occuper des plus petits. Et le choix, si c'est un garçon ou une fille, rentre pas en ligne de compte, on va dire. Donc on le propose aux filles autant qu'aux garçons. Donc j'ai envie de dire oui. Après, sur l'évolution dans l'histoire, je pense le fait d'avoir deux associations mondiales fait qu'à des moments donnés, il a fallu se poser la question, et les éclaireuses et éclaireurs unionistes étant membres des deux associations. Alors peut-être on va faire un petit point. L'Organisation mondiale du mouvement scout s'adresse aux garçons et c'est ouvert aux filles. Et l'Association mondiale des guides et éclaireuses ne s'adresse qu'aux filles. Mais du coup, les éclaireurs et éclaireuses adhèrent aux deux associations, c'est-à-dire les membres féminins adhèrent à la MGE et les membres masculins adhèrent à l'OMMS. Et pour avoir un peu suivi ces questions-là à un moment donné, l'OMMS s'adressait justement dans ce que tu disais, Alexis, de manière, on va dire, linéaire aux filles autant qu'aux garçons, alors que la MGE avait un discours, on va dire, beaucoup plus engagé, beaucoup plus émancipateur, mais de par le public qu'elle touche. La MGE est une association, la plus grande association de femmes au monde, 10 millions de membres. Voilà, je pense que le fait que les éclaireurs unionistes soient adhérents d'une telle association fait qu'il y a quand même des choses qui passent dans les programmes. Et tout à l'heure, notre présidente parlait de leadership. Je pense qu'effectivement, on pousse sur un leadership, mais plus qu'ailleurs, parce qu'on a cet objectif-là en vision commune.
On va tout de suite faire une petite pause musicale avec Girls and Boys de Blur.
Battery thinkers, can look for someone to bring for 5 years.
Laure, tu nous as parlé du GoMix tout à l'heure. Céline, elle a un truc en plus à nous présenter pour les curieux et ceux qui voudraient en savoir plus sur la question qu'on se pose ce soir.
Ouais, je voulais vous parler du Salon européen de l'éducation qui, cette année, a pour thème l'égalité femmes-hommes. Donc si vous avez envie de creuser plus la question, de débattre, il y a des interventions aussi artistiques. Ça s'adresse aux jeunes et aux professionnels. C'est du jeudi 21 au 24 novembre. L'entrée est gratuite, vous pouvez télécharger l'invitation sur le site, on le mettra sur Facebook. Ça se tient à Porte de Versailles et voilà, l'objectif c'est de donner à voir comment chacun au quotidien peut agir pour faire reculer les préjugés et faire vivre les égalités entre sexes.
Voilà. Merci Céline. Alors Laure, le GoMix, c'est un peu comme le salon de l'éducation, c'est un truc en plus. Parce que tu l'as dit aussi, on a déjà la méthode scout unioniste. Tu as répondu à Alexis en disant que dès qu'on était dans le cadre du scoutisme, on avait ce propos un peu émancipateur et on réfléchissait à la responsabilisation égale des filles et des garçons. Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par là et nous dire du coup comment est-ce que le GoMix va interagir avec ce qu'on va dire, en plus ou à côté, ou en cohérence avec ce qu'on a déjà.
Alors, effectivement, c'est pas un énième outil à mettre dans sa bibliothèque tout plein de poussière. C'est quelque chose qu'il faut avoir, c'est Hélène qui en parlait tout à l'heure, il faut l'avoir en tête, en fait, quand on anime, quand on parle à ses enfants, quand on parle à ses ados. Je l'avais dit aussi, quand on réfléchit à son folklore, quand on prépare un moment spi, quand on définit par exemple les rôles au sein d'une équipe de responsables, il y a un questionnaire à la fin du GoMix qui est « Sexiste-nous jamais ?» avec pas mal de questions. Et ce que je vous propose, équipe de responsables, c'est de prendre ce questionnaire et de vous poser les questions. Par exemple, est-ce que c'est tout le temps une femme qui prend le rôle d'assistant sanitaire ou d'infirmier? Est-ce que c'est tout le temps un homme qui prend le rôle de chef d'unité? Posez-vous les questions. Alors, en l'occurrence, sur les chefs d'unité, nos statistiques nous montrent que non, ce ne sont pas toujours des hommes. Mais par contre, ce sont plus des hommes qui se forment en directeur. Donc on peut se poser la question, est-ce que par moment on pousse pas plus les hommes à se former comme directeurs? Voilà, donc pour les responsables, déjà prenez le questionnaire et posez-vous ces questions-là. Et puis après, si vous voulez aller vraiment plus loin, vous pouvez ouvrir le GoMix et notamment toute la partie sur la réflexion. Et puis ces fiches pédagogiques pour vous aider. Donc je pense qu'il faut les lire plusieurs fois et puis se mettre des petits mémos quand vous préparez votre camp ou votre année. Voilà. Pour les cadres, on attend un peu plus de vous parce que vous êtes dans le mouvement plus longtemps. Donc là, c'est il y a une partie du GoMix qui s'adresse plus particulièrement à vous, d'avoir cette attention. Par exemple, dans les répartitions des équipes de responsables, est-ce que quand on fait la proposition aux jeunes qui arrivent, est-ce qu'on n'a pas... Alors, les statistiques nous montrent que oui. En fait, on se rend compte qu'on a plus de femmes en branche cadette et on a moins de femmes en branche moyenne. Alors, est-ce que on ne pousse pas plus les responsables hommes à aller en branche moyenne et plus les responsables femmes en branche cadette en se disant les femmes vont mieux s'occuper des petits
parce qu'elles sont plus douces, plus maternantes.
Et donc est-ce que en tant que cadre local on véhicule pas aussi des stéréotypes? Voilà, donc c'est peut-être à avoir une réflexion plus globale. Et puis dans les commissions, les équipes régionales, faites ce travail, posez-vous des questions et ouvrez le GoMix. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire comix@eudf.org.
Sans le GoMix, donc sans cette boîte à outils, sans ces lunettes un peu qui nous permettent de repérer là où notre action doit aller en faveur de l'égalité homme-femme, est-ce que on plante nos objectifs? Est-ce que la MSU ne marche pas si
Alors si, je l'ai dit plusieurs fois, le, le scoutisme en tant que méthode, et notamment ce qu'on appelle la MSU, méthode scout unioniste, qui est celle du mouvement, si on l'applique tout bien à la règle, avec tous les outils pédagogiques à disposition, elle produit de l'égalité. On n'a plus besoin d'y réfléchir au-delà de ce qu'on peut faire normalement. Donc, sauf si on met un folklore sur les schtroumpfs. Mais donc il faut quand même être vigilant.
Merci Laure, merci Hélène, merci Alexis, merci Céline. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Ça se discute. D'ici là, portez-vous bien sous vos tentes, dans vos groupes locaux et dans les instances du mouvement. À bientôt.
But love won't like you. Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming too. There's nothing that, there ain't nothing that I need. Well, hot and heavy, pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you.